Alors, à nouveau à toute allure, on va procéder à la composition de la table ronde qui va donc terminer cette journée. Donc j'invite les différents participants à cette table qui, pour gagner un peu de temps d'ailleurs, vont se présenter. Enfin, je vais laisser même tout de suite la parole à Sylvain qui va animer cette table et donc qui va prendre le relais tout de suite.
Bon, Mélanie Archambault, donc, qui est responsable, elle, de l'espace Nouvelle Génération. Et si j'ai bien compris, il n'a pas encore ouvert. Donc, de fait, c'est prospectif. Et puis, en fait, on avait eu un peu de mal à avoir un libraire. Donc, j'ai demandé un peu au déboté, à Yann Madet, qui était déjà parmi nous ce matin, de venir témoigner. Alors, lui aussi, qui a une expérience, finalement, un peu courte, puisque ça...
Ouais, je suis libraire à tiers-temps, juste depuis la rentrée. Donc
voilà. Mais qui le fera depuis aussi depuis son regard aussi d'auteur, et qui, j'en suis sûr, aura des choses à dire. Donc, Et on a un panel fort diversifié, puis on va essayer à partir de là d'en faire sortir quelque chose. L'idée, c'est mon boulot. Hein. Mais bon, je vais essayer. Donc, l'idée, effectivement, c'est un peu de se poser des questions, d'abord sur la manière peut-être dont on appréhende le public. Alors, lorsqu'on est éditeur, bien sûr, lorsqu'on est responsable d'un espace qui, forcément, va prendre en compte certaines dimensions de la bande dessinée, lorsqu'on est libraire, fût-ce à tiers-temps. Il n'y a pas de raison. Comment finalement on fait pour voir un petit peu comment on interagit avec le public, comment on l'imagine, parce que souvent le contact n'est pas direct, enfin j'imagine pour un éditeur par exemple.
Non, il n'est pas vraiment direct. Enfin, on a des contacts directs, on a toujours des retours des lecteurs, des gens pas contents en général, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. On rencontre des gens dans les salons, on reçoit des courriers. Les sites internet, etc., permettent aussi d'avoir un retour. Je pense que dans notre profession, on est un peu comme les auteurs, on s'interdit, on ne peut pas s'empêcher d'aller sur les forums de lecteurs également, ça fait très très mal, mais on a envie de savoir, même si on sait que ce n'est pas du tout représentatif. En fait, moi dans ma position, je dois, et on me rappelle tous les instants, avoir en tête l'idée qu'il y a un public, qu'il y a des gens qui lisent les livres que je peux éditer. Et en même temps, il faut aussi que je m'interdise de penser à lui, parce que mon métier est également, alors je me paye un peu de mots, mais c'est quand même aussi de proposer des choses en dehors du public. C'est-à-dire qu'il peut arriver que vous ayez un livre, un projet qu'on vous soumet, qui vous paraît absolument... indispensable de publier. Si vous commencez à penser est-ce qu'il y a des lecteurs pour ça, en général vous n'allez pas publier grand chose. Alors il y a des éditeurs qui sont plus spécialisés pour ça que d'autres, mais c'est quelque chose qu'on a, on cherche cet équilibre, c'est proposer quelque chose de nouveau, différent, et répondre à une demande. Moi je réfléchis pas vraiment ces termes là mais bon, c'est tellement intériorisé maintenant.
Alors, on n'a pas bien précisé au démarrage, donc Thomas Ragon qui est éditeur chez Dargaud, c'est ça ?
C'est ça, oui. Hein,
c'est un peu une vision un peu à la Goscinny. Goscinny disait toujours, quand il était rédacteur en chef de Pilote, il ne faut surtout pas faire attention au public, sinon on leur donnerait toujours les mêmes choses.
Si vous demandez leur avis aux gens de ce qu'ils ont envie de lire, ils vont demander toujours la même chose. Ils vont demander ce qu'ils ont déjà aimé. Alors, c'est un peu prendre les gens pour des idiots, parce qu'on sait très bien aussi que les gens qui achètent des livres sont plutôt plus curieux que la ménagère de moins de 50 ans qui regarde TF1, encore que, mais enfin, ça reste à prouver. Mais a priori, les gens qui lisent, et c'est vrai pour la bande dessinée, comme pour n'importe quelle forme de littérature, sont des gens plutôt curieux, donc on peut aussi faire ce pari-là. Mais si on demande à un enfant de 10 ans, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de lire, il va répondre Naruto. Donc, voilà. Donc il faut
doser, parce que quand même, enfin, c'est aussi une entreprise commerciale malgré tout. Il faut bien
vendre quand même. Bien sûr, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'on me le rappelle à tous les instants, il y a beaucoup de gens dans les maisons d'édition qui, eux, ne pensent qu'à ça. Et leur métier est de vous rappeler que, attention, ce livre n'a pas de public. Alors on ne rentre pas dans les débats philosophiques, qu'est-ce que c'est qu'un public pour un livre, surtout avec quelqu'un du commercial. Parce que sinon on passe sa vie à faire ça. Donc voilà, mon métier c'est aussi de savoir de temps en temps, le plus possible même, faire abstraction de cette donnée-là.
Bon, ça on reparlera peut-être, j'ai prolongé simplement le tour de table pour que tout le monde puisse s'exprimer au moins au démarrage. On prolongera probablement cette question-là, parce qu'effectivement il y a toute la mesure des choses, ce qu'on peut se permettre ou pas, puis la pression j'imagine qui s'exerce aussi par moment nécessairement. J'imagine, on va passer à Mélanie peut-être. Mais alors voilà, comment est-ce qu'on conçoit aussi un espace comme celui-là? Il faut peut-être expliquer un petit peu ce que ça va être, mais comment on imagine ce que va vouloir, désirer, avoir besoin un public que finalement on ne connaît pas encore tant qu'il n'est pas venu finalement. Donc comment on imagine ça?
Alors, je vais peut-être rappeler très brièvement le projet dans lequel s'inscrit l'ouverture d'un espace BD à la BPI. Donc, c'est un projet beaucoup plus vaste, qui est un espace dédié aux pratiques culturelles des jeunes adultes, donc 18-25 ans. Et on se retrouve un peu à la croisée de deux objectifs, qui est effectivement de créer des collections cross-médiatiques, qu'il s'agisse de livres, de films, de jeux vidéo, qui collent davantage et qui répondent davantage aux pratiques induites par les jeunes générations. Et puis l'envie de faire un peu entrer les mauvais genres à la bibliothèque, dans l'institution culturelle qui est le Centre Pompidou. Je dis ça un peu par provocation, mais c'est un peu comme ça que c'est reçu aussi par la plupart de gens du métier. Et donc voilà, l'idée c'est d'être plus dans une culture illégitime, et même si aujourd'hui la BD a quand même gagné certains de ses galons de noblesse.
Pas tous.
Voilà, certains. Je pense qu'elle les a pas encore tous gagnés, donc c'est un peu la démarche. Voilà, donc c'est un peu au croisement de ces deux envies-là, de faire exister une autre culture au sein de la BPI. Alors nous, en fait, je rejoins complètement le discours de Thomas qui est un peu le discours d'un bibliothécaire. Effectivement, nous on n'a pas d'enjeux financiers, donc on peut encore plus s'affranchir de ces questions d'attente du public. En fait, ce que nous on essaie de faire, c'est plutôt de donner à voir une autre bande dessinée, enfin ce qu'on espère pouvoir faire à la BPI. Et pour nous, c'est pas une question d'attente du public ou de prescription des bibliothécaires, c'est plutôt essayer d'équilibrer en fait notre offre par rapport à une BD qui peut être très visible dans d'autres bibliothèques. En l'occurrence, on a un tissu de bibliothèque à Paris qui est très dense, donc on a l'avantage de pouvoir s'inscrire un peu en complément et pas forcément devoir répéter ce qui se fait ailleurs. Et donc voilà, l'idée pour nous, c'est qu'il y a une BD qui peut être très visible dans le commerce. On parlait de 13, Largo Winch tout à l'heure. Effectivement, nous on va essayer de faire autre chose. Et je ne parle pas de bonnes ou de mauvaises BD, attention, mais je parle bien de donner de la visibilité. Pour moi, c'est le rôle de la bibliothèque. Et notre véritable valeur ajoutée, elle est là, à une BD qu'on trouve peut-être moins facilement quand on n'a pas forcément, quand on ne connaît pas très bien la BD, quand on n'est pas un public averti. Et je pense que voilà, notre rôle est là. Donc effectivement, les attentes du public... pour l'instant, on se fait plutôt prescripteur, puisque de toute façon, l'espace n'a pas ouvert. Il ouvre demain. Mais on entend bien quand même les prendre en compte, dans une faible mesure, puisqu'on n'est pas une bibliothèque de prêt. Donc on ne prête pas nos ouvrages. Donc les chiffres de prêt, on ne peut pas en avoir. Donc on a mis en place un cahier des lecteurs. Hein, c'est des choses très classiques, mais qui nous permettent quand même de prendre un peu le pouls des attentes de notre public. Pour l'instant, puisqu'on a déjà, excusez-moi, j'ai oublié de dire, on a déjà des BD à la BPI qui sont issus de notre partenariat un peu historique avec le Festival d'Angoulême, et donc qui étaient jusqu'à présent composés des sélections depuis une dizaine d'années, les sélections officielles du festival. Donc on a déjà un premier espace qui va être étoffé, enrichi à partir de demain. Et donc on voit que les attentes du public vont surtout sur le fait d'enrichir des séries et de les compléter. Pour l'instant, on n'a que des retours positifs. On va également utiliser les médias sociaux, bien entendu, et créer une page Facebook avec un avatar très branché, BD, culture geek, etc. Et puis après, on fait exactement comme vous. On va voir ce qui se fait ce qui se dit sur les forums, sur les blogs, sur les sites d'éditeurs, pour essayer de prendre la tendance, même si on essaie de s'affranchir aussi de ça. Peut-être qu'on se trompe. On verra bien à partir de demain, sur place, comment les collections vivent et ce qu'on nous dit tous les jours au quotidien.
D'accord. Et alors, donc en fait, parce que là on a parlé donc de l'éditeur, de l'espace, il reste en bout de chaîne le pauvre libraire, qui lui, finalement, comment il saisit le public? Parce que le public, là, il est directement là. Puis alors en plus, enfin, je dis le public, c'est pas tout à fait le public, c'est l'acheteur potentiel en fait qui passe à la librairie normalement. Alors, comment on le voit? Au moins potentiel une fois qu'il a franchi la porte. Puis, tant qu'à faire, en espérant qu'il ressorte quand même avec quelque chose.
Alors, du coup, moi, l'avantage, c'est que du coup, la librairie dans laquelle je suis, elle n'est pas plus grande que cette scène-là. C'est vraiment tout petit. Et donc, en fait, c'est sur Martigues. Je vous rappelle que ce matin, je vous ai expliqué d'où je venais. C'est la banlieue de Marseille, donc 40 000 habitants. Et donc, du coup, en fait, Thomas, qui a ouvert ce magasin il y a 7 ans, il a fidélisé vraiment un public de passionnés de BD. Il récupère un peu tous ceux qui sont autour des temps de Berre, plus ceux qui sont attirés par la BD et qui ont la flemme de descendre sur Aix-en-Provence ou Marseille, donc qui viennent chez nous. Et donc, en fait, du coup, on est vraiment. C'est plus un public que des clients, on est vraiment. Enfin, c'est pour ça que je me suis engagé dans l'aventure. Sauf que lui, il est prof en disponibilité, donc il a été obligé de reprendre un poste à la rentrée. Donc on a dit comment on fait continuer cette aventure-là. On l'a fait continuer à plusieurs. On cherche Scope, un autre modèle de magasin, on va dire. Et voilà. Donc du coup, c'est pas du tout. On a vraiment une relation du coup directe. Là, pour de bon, avec les clients qui sont vraiment des passionnés, qui viennent chercher des choses très précises. À vrai dire, je vois que là, depuis 3 mois, on tourne plus sur des commandes. En fait, on passe beaucoup de commandes précises parce qu'on a discuté, on a donné envie à des gens d'acheter certaines BD. Après, on a le stock habituel. Alors, du coup, là, il y a la gestion avec les représentants. On essaye de voir ce qui peut coller à notre public. Alors, en plus, nous, on n'a pas du tout un public. Par exemple, pour le roman graphique, c'est très compliqué. On essaye quand même de le mettre en avant. Mais bon, chez nous, c'est des usines. On est vraiment un milieu prolétaire. Mais bon, on essaye de défendre ça. Voilà, je fais beaucoup rire Thomas parce que j'ai un petit rayon inrecuptible. Moi, je mets toutes les choses et il n'y a que moi qui achète, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Je le défends quand même. Voilà. Mais enfin, en tout cas, l'avantage, c'est quoi? On sait pas du tout. On n'a pas une relation de client, même si effectivement on est dans le commerce. On a vraiment une relation de passionné, de conseil, autant qu'on peut. En plus, moi, je vous dis, je suis le dernier arrivé. Je suis vraiment là par passion plus que pour vendre des choses.
En même temps, si je peux rebondir là-dessus, tu viens bien de dire aussi, chez nous, c'est plutôt des prolétaires, c'est l'usine. Donc effectivement, on ne peut pas arriver à leur vendre. Tu donnais l'exemple des romans graphiques. Donc ça pose bien la question finalement du rapport entre le public, ses attentes, et puis finalement ce qu'on peut arriver à faire. Et toute la question, alors qu'on pourrait poser là nos 3 témoins, c'est celle aussi du coup de cœur. Mélanie disait bien, finalement, il y a des choses qu'on a envie de défendre, peut-être ce qu'ils ne voient pas habituellement. Thomas, vous parliez effectivement des choses qui sortent un peu des attentes du public. Moi, la question que j'ai envie de poser, alors là, vous voyez, on est de l'autre côté, finalement, pas du côté du commercial et des pressions qu'il pourrait y avoir, mais tout simplement du côté peut-être des habitudes du public, du fait qu'il n'ait pas trop envie parfois, qu'on le bouleverse, qu'on le bouscule un peu trop. Et comment on fait ça? Parce que j'ai tendance à penser que, alors d'abord, il y a la question comment on choisit ce coup de cœur, comment on se dit, oui, là, c'est jouable quand même, je peux y arriver. Mais il y a aussi pas seulement le fait de le mettre à disposition. Le mettre à disposition, c'est une chose, mais le rendre accessible, permettre que les personnes trouvent leur chemin dans des œuvres qui sont parfois hermétiques, dans certains cas. Comment on fait ça?
Ça, c'est une drôle d'alchimie. C'est tout le cœur du truc. C'est intéressant parce qu'en fait, on est tous les 3 ici des prescripteurs à des niveaux il y a des niveaux différents ou à des cercles dans la diffusion différents. C'est tout un ensemble de travail et ce sont des métiers. Moi, dans mon cas, ça peut être rendre un livre peut-être un peu difficile par une maquette. Tout simplement un choix d'une image de couverture, la rendre plus attrayante, et peut-être de donner un message d'emblée par cette couverture, un message qui serait de dire ce livre vaut le coup d'œil, essayez au moins de l'ouvrir. Alors que si je prends une case intérieure qui n'est pas très séduisante d'emblée, peut-être que des gens ne vont pas s'arrêter. Mais c'est tout un ensemble de choses. On compte beaucoup sur les libraires, évidemment, on compte sur les bibliothécaires. Moi, dans mon cas, je compte plus sur les libraires qui vont eux-mêmes ensuite défendre nos ouvrages auprès des bibliothécaires. Et on communique ça par tous les moyens possibles. Moi, je me souviens, c'est marrant, parce que j'ai été libraire aussi, et il y a plus de 17 ans maintenant, j'avais moi-même mon petit rayon inrecuptible, qui ne parlait pas du tout de bande dessinée à l'époque, donc ce n'était pas le rayon inrecuptible, mais j'étais très content, et c'est comme ça que ça marche, hein, j'essaie de répondre. J'avais les premiers Acme Novelty de Chris Ware en fascicule, Et j'en commandais 3 exemplaires à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait. Et quand j'arrivais à en vendre un tous les 6 mois, c'était une grande victoire. Mais je sais que la personne qui a acheté ce fascicule de Chris Ware, a priori, il est revenu, il était content, ou alors ça l'a tellement choqué qu'il n'a plus voulu en entendre parler. Mais enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Et c'est nos métiers, en fait, c'est d'essayer de provoquer des réactions, d'essayer qu'il se passe quelque chose, quoi. Bon, après. Ça tire du miracle parfois aussi, hein. Bon. De la chance.
Là, on entend bien le travail sur la maquette, sur l'objet publié. Alors, par contre, dans un fonds de bibliothèque, c'est aussi la mise en scène, la manière dont on amène les choses.
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Par rapport au fait que vous disiez, les gens ont peut-être envie aussi de voir des choses qu'ils connaissent. Évidemment qu'on met quand même quelques repères dans la bibliothèque pour faire produit d'appel ou pas. Donc, sur le manga, on a pris quelques séries connues, pas toutes. On n'a pas pris One Piece délibérément, mais on a quand même Naruto. Voilà, on a fait quelques choix pour aussi faire venir un public qui est celui-là, en espérant les emmener vers autre chose. Ou pas d'ailleurs, hein, mais l'idée, c'est d'ouvrir leur horizon littéraire. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a effectivement des repères comme ça. On va avoir la caste des métabarons qui va être par là. Voilà. Ensuite, effectivement, on scénographie nos collections, c'est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire du facing au maximum, ça veut dire créer de la porosité entre les collections. Par exemple, nous avons volontairement mis nos mangas sur des tourniquets pour pouvoir irriguer l'espace de mangas et faire que le roman graphique côtoie le manga et que les gens pour créer des passerelles entre les uns et les autres. Et effectivement, on se retrouve avec du Naruto qui près du Chris Ware ou du Daniel Klaus. Donc essayer de créer comme ça des passerelles physiques. Et puis enfin, moi je pense que c'est très important, on fait des valorisations dans les bibliothèques, enfin pas que dans les bibliothèques, et c'est, on joue notamment sur les thématiques. Donc effectivement, par exemple, on va avoir des thématiques comme l'épouvante, parce qu'il y avait Halloween il n'y a pas longtemps, on a eu la BD indépendante il y a quelques temps, on va avoir les adaptations en BD, que ce soit cinématographique, jeux vidéo, etc. Et donc on essaie de faire venir les gens à la BD par des thématiques qui les intéresseraient. Donc effectivement, on peut en avoir rien à faire de la BD, mais s'intéresser à la question de l'épouvante et du gothique. Et donc on essaie de faire entrer les gens par d'autres portes d'entrée. On va aussi travailler avec des collègues, notamment en histoire, et faire des valorisations sur la BD et l'histoire. Donc là, c'est plutôt les aficionados d'histoire qui vont venir vers la BD. Donc je pense que le principal, en fait, c'est de créer des passerelles. Donc en termes de support, donc mélanger la BD avec le jeu vidéo, les romans, etc., la fiction, ou en termes de thématiques, et essayer de faire entrer, voilà, créer plusieurs portes d'entrée pour faire se côtoyer la BD très alternative, la BD grand public, le roman graphique, le comics, etc.
Yann, alors comment on fait pour convaincre les prolos de lire du roman graphique?
Pour la scénographie, vu l'espace qu'on a, nous, c'est simple. En fait, je fais de la géologie, en fait, on fait des strates. Et donc là, vous avez décembre, et je descends jusqu'en août. Et en fait, le tout, c'est de bien savoir ce qu'il y a en août, justement, pour pouvoir répondre, du coup, aux attentes de ceux qui viennent. Après, voilà, nous, on travaille aussi beaucoup avec les médiathèques, du coup, parce que, par exemple, on participe à un comité BD tous les mois, où, justement, on défend les albums qui vont sortir et ceux qui viennent de sortir. Donc, histoire aussi de savoir les attentes, pas que du public qui vient acheter, aussi les attentes de toutes les institutions autour. Et voilà. Et puis, il y a quelque chose de riche qui se passe, quoi. On essaye d'être au centre. On sort trop de ça. Après, on travaille aussi beaucoup avec les cinémas, aussi, comme il y a beaucoup d'adaptations. Enfin, on essaye vraiment de faire des passerelles. Voilà. Bon, l'idée, c'est vraiment d'être sur autre chose que d'un secteur simplement marchand. Donc, du coup, voilà. Donc, beaucoup les médiathèques. Voilà. Puis, on est très, très. Donc, du coup, c'est vrai, de bien connaître son public, chose que je ne connais pas encore bien. Et justement, ce qui nous est proposé pour voir, bah, voilà, il veut ça, donc je vais lui proposer ça parce qu'il veut, mais voilà, je vais peut-être un peu changer. Jusqu'où je peux changer, jusqu'où je ne vais pas le faire. Et donc, en conséquence, pas prendre trop ou plus de bouquins pour pas aggraver la strate. Mais voilà, donc ouais, c'est très, effectivement, c'est très, on est dans l'alchimie, quoi. Voilà, ouais, dans quelque chose de très, très fragile, quoi. Et c'est ce qui est intéressant.
Jean-Philippe, tu voulais réagir tout à l'heure, je t'ai vu.
Ah, tu vois, d'accord, excuse-moi. Oui, toutes les interactions avec la salle sont possibles, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais repartir de ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est probablement une des choses les plus difficiles. C'est vrai que parfois, c'est quand même le grand écart
parce que j'entendais bien ce que vous disiez à l'instant. Finalement, bah oui, entre Daniel Clowes et Naruto, difficile quand même d'arriver à passer aussi rapidement de l'un à l'autre. Et j'imagine que de la même manière, bah, dans l'édition, parfois on se garantit avec une série à grand succès pour pouvoir aussi se permettre ou trouver après bah, ce qui va permettre en fait de trouver de publier une œuvre qui serait probablement, dont on sait que probablement elle sera beaucoup moins lue. Comment on fait ce calcul-là, qui est aussi un calcul d'une certaine... Alors, peut-être pour un éditeur, un calcul plus financier, malgré tout, pour arriver à équilibrer les choses, mais peut-être aussi au niveau... Alors, peut-être aussi au niveau financier, d'ailleurs, du côté du libraire, puis dans le cas d'un espace comme celui qui va nous être proposé bientôt, encore que je suis un peu trop vieux, donc il sera plutôt proposé aux autres, mais bon, mais comment on fait pour finalement trouver l'arbitrage qui va permettre... Voilà, entre les œuvres, on va dire, grand public, encore qu'on pourra revenir sur la notion de grand public, hein, parce que ce n'est pas forcément évident, les œuvres plus réservées peut-être à un public déjà plus connaisseur, et puis peut-être tout ce qu'il y aurait d'ailleurs au milieu qui permet aussi parfois de passer de l'un à l'autre. Est-ce qu'on compose tout ça finalement ?
En ce qui me concerne, on compose pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, dans une maison d'édition, le but, c'est de gagner de l'argent. Pour mes patrons, le but, c'est de gagner de l'argent. Après, il y a différentes sortes de patrons. André Chiffrin vient de mourir. J'imagine que tout le monde ici a lu l'édition sans éditeur. Ce bouquin, j'espère qu'il n'y a aucun de mes collègues qui ne l'a pas lu, parce que c'est quand même l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de la... J'ai toujours dit que c'était l'histoire de la stupidité à l'œuvre, ce qu'il raconte, quoi. Mais donc il y a des patrons qui vous demandent 15% de résultats après impôts, tout payé. Il y en a d'autres qui savent que dans l'édition, quand on est déjà à 3 à 5%, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça fait déjà une grosse différence au sein des maisons d'édition. Donc quand on a la chance, comme moi, dans une maison où les gens savent que quand on est à 3 à 5% de résultats, c'est plutôt pas mal, on est déjà beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire qu'on gagne notre vie avec les grosses séries qui, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure en arrivant que les séries dites patrimoniales qui existent depuis 30, 40, 50 ans, qui ont su glaner et fidéliser un public de plusieurs centaines de milliers de lecteurs à chaque parution, ce sont ces séries-là qui font vivre l'ensemble de la maison, mais qui font vivre l'ensemble de l'économie de notre secteur et de l'ensemble de l'édition. En littérature, c'est exactement la même chose. C'est peut-être même encore plus facile en littérature. Mais bon. Donc oui, chez Dargo, ce sont les 13, les Beck et Mortimer, les Lucky Luke, les Boule et Bill qui font vivre la maison, qui font gagner de l'argent. Et ensuite, l'équilibre à trouver, c'est... On est obligé d'adopter un peu le langage économique que l'on pratique dans les hautes sphères. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas cet artiste est un génie et il faut absolument que son œuvre soit publiée. Je dis ce garçon a beaucoup d'avenir et c'est l'avenir de la maison et que vous verrez, il sera très connu dans 20 ans et c'est grâce à lui que vos petits-enfants pourront toucher des dividendes. En gros, c'est comme ça que ça se passe, mais ce ne sont qu'habillages, c'est un peu la politique, quoi. Enfin, voilà, je brandis mon Blake et Mortimer et je vous file mon Dachau en douce à côté. Mais ça se fait de manière assez naturelle. On n'est pas non plus... moi, je ne suis pas chez Dargo, hein, je ne suis pas Jean-Christophe Menu, je ne suis pas un anarchiste. Je le fais de manière très naturelle. Je sais très bien que c'est un hommage. Donc oui, moi, mon idée de l'édition, c'est que c'est bien joli de faire le plus beau livre du monde. Si c'est pour que la maison ferme la porte après ce plus beau livre du monde, c'est pas la peine parce que le livre sera plus disponible. L'auteur sera encore plus à la rue qu'il ne l'est et je pourrai pas faire d'autres livres. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un équilibre financier qui nous permette de continuer. Mais continuer dans l'édition, c'est ne pas insulter l'avenir et c'est essayer de proposer des choses nouvelles et de trouver un public à ces choses nouvelles. Mais je ne vous arriverai pas à me faire définir ce que c'est que trouver un public. Parce qu'en fait, ça dépend à chaque fois. Quoi. Il y a une question là-bas.
Attendez, comme on n'a plus qu'un seul... Ah, tu en as un. Parfait.
Oui, trouver un public, moi, j'inverserais la question, c'est que le public nous trouve. Parce que je pense qu'il y a on l'a vu, il n'y a pas un public, mais il y a des publics de bande dessinée. Il y a des publics plus ou moins spécialisés qui connaissent. En fait, c'est un peu comme dans l'éducation nationale, il y a ceux qui sont initiés, ceux qui ne sont pas. Ceux qui connaissent les parcours, ceux qui connaissent les langages, ceux qui ne les connaissent pas. Et moi, je souscris beaucoup à ce que dit Madame Archambault, c'est ça ? À cette approche qui va permettre à un public qui n'est pas connaisseur de rentrer et de se dire, tiens, on me parle de quelque chose qui me touche. Mm-hmm. Parce que finalement, qu'est-ce qui me touche ? C'est des sujets, c'est des thèmes, c'est ce dont je parle. J'ai parlé ce matin, hier, dont je vais parler ce soir. Et c'est plus cette entrée par thématique, par centre d'intérêt, qui, à mon avis, peut drainer l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas les codes. Or, pour avoir fait pas mal d'études dans le domaine, et notamment auprès d'un public féminin, dont on dit qu'il est assez éloigné de la BD, c'est pas tellement que les femmes délaissent la BD, c'est que la BD a délaissé les femmes. Et notamment n'a pas fait en sorte, c'est un public parmi d'autres qui n'est pas connaisseur du milieu, mais on lui a pas facilité l'entrée dans ce milieu-là. Au contraire, l'univers est tellement codifié, relayant ça par les distributeurs, les éditeurs, etc., qu'on ferme énormément de portes sans forcément le voir, mais d'emblée, on met des obstacles à une compréhension d'une offre et donc à un accès.
Peut-être simplement avant que vous rendiez le micro, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je vais demander à tous ceux qui dans la salle voudraient intervenir ensuite qu'ils se présentent à chaque fois avant de prendre la parole.
Oui. Alors Bruno Joly, je travaille aux éditions Jungle, qui est une maison d'édition qui fait de la bande dessinée d'humour assez grand public, avec une production très axée sur de la licence. On est l'éditeur des Simpsons en France, et qui se lance aussi dans la création. Voilà. Et on a développé cette année, on s'intéresse beaucoup à essayer d'apporter une BD justement pour un public différent, notamment pour les femmes, en essayant de penser les sujets qui les intéressent. Voilà. On a pensé sujet plutôt que type d'offre. Voilà.
Merci. J'ai cru comprendre que vous vouliez tout de suite apporter une précision.
Oui, ben, comme Monsieur Joly est du métier, il sait aussi que on est dans notre business, on a 500 libraires spécialisés, que le cœur pour des maisons généralistes, le cœur des ventes se passe d'abord là, et que ces ventes intermédiaires font tourner toutes les machines, qu'on élargit ça au Fnac, Feu, Virgin, les réseaux multimédia, etc. Et que l'idée et l'ambition de, je pense, beaucoup d'éditeurs, c'est effectivement de percer d'être trouvé effectivement par d'autres publics. Mais on verra le public féminin comment ça se passe. Mais le public féminin, c'est très intéressant. On se dit tous ça depuis 10 ans. Oui, il faut absolument un lecteur sur deux est une femme. Oui, certes, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Il y a très peu d'auteurs femmes, il y en a de plus en plus, mais il y a encore très peu d'auteurs femmes. En même temps, je ne crois pas que parce qu'un auteur est une femme, qu'elle va forcément s'adresser à une femme. Je pense à l'exemple d'un Chat du rabbin, par exemple, où le public est excessivement féminin. C'était calculé pour rien du tout, le Chat du rabbin. Chat du rabbin, c'est un bon exemple. Ça commence à 5000 exemplaires mis en place dans les magasins. 6 mois plus tard, c'est à 15 000. Et puis, 5 ans plus tard, c'est à 150 000 exemplaires. Et en fait, il a totalement dépassé le strict cercle du public bande dessinée pour se retrouver dans des librairies communautaires, certes, mais pas seulement, dans des librairies généralistes. Et ça, alors, c'est du travail de la part de toute la chaîne du livre, de diffuser tout ça, de la part de l'éditeur beaucoup bien sûr, et de toute la chaîne du livre, mais ça ne se commande pas. Ça se saurait. Je pense qu'on ferait tous des best-sellers et 65 millions des Français liraient de la bande dessinée plusieurs fois par jour.
En même temps, c'est peut-être ce qui nous sauve que justement, il n'y a pas trop cette miracle. Hein, évidemment.
Oui, oui. Non.
Mais bon, alors je vais continuer toujours pareil. Mais alors justement, parce qu'on a orienté un peu la question sur les publics, quand on imagine un espace pour les jeunes, On sait aussi que souvent, ce qui se passe dans ce type d'espace, je pense que les bibliothécaires connaissent bien ça, c'est que parfois, il y a un public qui arrive, qui s'installe, et ce public, de par sa seule présence, parfois, eh bien, fait qu'il n'y en a plus d'autres qui viennent, c'est-à-dire qu'ils investissent l'espace et se l'approprient. Comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte ? De quelle manière on peut le prévoir ? Comment on peut jouer sur ce type de public ? Parce que c'est pas évident. Alors, je sais que c'est une question difficile, hein, je comprends bien, puisque le public, il n'est pas encore arrivé. Mais bon, mais au moins, est-ce qu'on peut imaginer ce type de problème qui se pose souvent, un espace où finalement, quelqu'un s'installe.
Je sais qu'avec la BD, on risque de toucher plus les trentenaires et les quarantenaires, ça c'est évident. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que c'était aussi une forme de culture qu'on mettait en avant dans cet espace, plus qu'une limite d'âge. Donc évidemment, si vous avez 50 ans, vous avez le droit de venir.
Non, je suis désolée. C'est trop tard.
Alors, c'est pour ça. Enfin, en fait, comme c'est un espace à terme, parce que pour l'instant, on a effectivement que deux premiers jalons, en fait, d'un espace plus ambitieux, qui sont l'espace BD, donc le salon graphique, et le salon jeux vidéo. Mais dans l'espace, dans le salon graphique d'ailleurs, je devrais l'appeler comme ça, il n'y a pas que de la BD en fait, il y a aussi de la fiction, ce qu'on appelle de la littérature cross-age, qui est de la littérature qui fait la passerelle un peu entre la littérature ado et la littérature adulte. Donc c'est bien aussi pour ça, par rapport à ce que vous dites et pour essayer de prévenir cette éventualité, qu'on a volontairement ouvert l'offre et qu'on ne l'a pas limitée à la bande dessinée, parce que moi je suis convaincue qu'avec la bande dessinée, c'est pas les 18-25 ans qu'on va forcément toucher. C'est pas forcément un problème pour nous. Nous, en bibliothèque, tant qu'on a des gens, on estime qu'on a réussi quelque chose. Comment le prévenir ? C'est toujours pareil. Je pense que nous, on essaie de faire un fonds qui témoigne de la vitalité de l'édition contemporaine. Donc j'ai oublié de dire qu'on écartait le patrimonial. On est sur des choses très sélectives. Et on va essayer de faire tourner nos collections pour surprendre nos lecteurs, et éviter qu'on ait un lectorat qui se fige dans l'espace. Donc l'idée, c'est de faire vivre nos collections. Alors on peut le faire parce qu'on a les moyens de le faire aussi. Je sais que toutes les bibliothèques ne peuvent pas se permettre de renouveler leur collection d'un tiers tous les ans. Mais nous, c'est bien une volonté d'avoir des choses très sélectives, de ne pas être dans des collections exhaustives, de ne pas essayer de créer un fonds encyclopédique, on n'est pas la BNF, et de renouveler régulièrement pour essayer de faire bouger le public. Et en faisant bouger nos collections. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire pour éviter d'avoir un lectorat qui en chasse un autre et essayer que tout ça coïncide et soit compatible.
D'accord, effectivement, c'est une stratégie complète. Alors, il reste à demander à Yann si effectivement sa petite librairie, il va la changer uniquement en rayon des inrecuptibles, ne laissant plus qu'une seule pile.
Alors, je voudrais pas qu'on croie que je. Parce qu'on comprend, moi j'adore vendre la BD grand public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens sortent heureux du magasin. En l'occurrence, c'est que le magasin continue à vivre, donc du coup, j'ai aucun problème à vendre toutes sortes. C'est moi, par goût personnel, effectivement, je suis. Mais du coup, j'ai perdu la question.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est juste, enfin, dans le même type, tu nous as dit tout à l'heure, moi, c'est déjà des gens, en fait, ce sont des passionnés, ce sont des gens qu'on connaît. C'est un public qui, finalement, est déjà présent et bien repéré, et qu'il faut arriver, finalement, à servir au mieux. Mais de fait, si, par exemple, il fallait ouvrir ce public, s'il fallait arriver, tu vois, à le dépasser un peu, comment on pourrait s'y prendre, de quelle manière ? Parce qu'on est toujours là-dessus, sur l'ouverture au public. Là, le fait est qu'il était déjà constitué, d'une certaine manière.
Oui, voilà, là, il est constitué depuis 7 ans. Après, il s'ouvre tout le temps, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui passent, parce qu'ils découvrent que le magasin est là. Il y a des gens qui, d'un coup, découvrent qu'on peut acheter de la BD ailleurs qu'en surface, effectivement. Et du coup, ils découvrent un autre univers que ceux qu'ils connaissaient. Après, on cherche, c'est pareil, nous, les réseaux sociaux, quand on peut y être, on fait, par exemple, une séquence sur la télé câblée aussi locale pour expliquer nos coups de cœur, encore une fois. Quoi. Quand on peut faire venir des auteurs en dédicace, même si c'est pas très grand, par exemple, c'est tous des moyens pour faire découvrir autre chose à des gens, parce que d'un coup, ils découvrent que c'est un vrai gars qui dessine et qui passe sa journée et qui est vraiment passionné. Donc voilà, on essaye quand même de s'ouvrir un maximum dans l'espace réduit qu'on a. Quoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'on s'appuie sur le réseau de passionnés, fidèles. Voilà, je pense que vraiment, les fidèles sont là et qu'on joue là-dessus. Quoi.
Après, je me permets de rajouter Merci. Quelque chose. Il y a une autre façon aussi d'ouvrir la bande dessinée, on est bien sûr toujours sur cette question-là, c'est de créer autour de la bande dessinée aussi des collections qui la contextualisent. Donc, de façon, alors, ça peut être très pointu chez nous avec le secteur art et littérature qui développe des collections sur la BD historique, analytique, etc. ou le service Nouvelle Génération qui achète des choses alors plus loisirs, plus détente, avec des manuels de dessin type manga, type comics, etc. Toujours dans l'idée voilà, de faire entrer les gens dans la BD par un autre biais, qui peut être aussi celui-là. Je pense que c'est important aussi de créer autour un fonds qui illustre, si je puis me permettre, la BD, quoi, illustrer la BD par d'autres fonds.
Dans vos réflexions à tous les trois, à différents niveaux, vous avez fait appel aussi aux forums, aux réseaux sociaux, à la manière dont on peut se servir des nouvelles technologies pour aller vers le public et pour mieux le comprendre. Est-ce qu'il pourrait en découler ou est-ce qu'il peut en découler une stratégie déterminée, des interactions plus précises avec les lecteurs? Comment on peut faire ça? Est-ce que ce n'est pas aussi un des défis, finalement, maintenant? Parce qu'on voit bien qu'on parlait des jeunes générations, mais globalement, on sait bien qu'ils communiquent de plus en plus à l'aide des réseaux sociaux, à l'aide des nouvelles technologies. Est-ce que ce n'est pas un enjeu aussi, finalement, pour toute la chaîne du livre, que de communiquer aussi avec ces outils-là?
A priori, le nouveau marketing, le marketing est nouveau tous les deux mois. Donc c'est la nouvelle manière du marketing, de faire du marketing, c'est de faire en sorte que la personne à qui on s'adresse devienne elle-même l'émetteur du message. Voilà. Donc oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., c'est l'idée. Donc ce qui est assez intéressant, moi c'est pas mon métier, donc il y a des gens chez Narou qui font ça, mais c'est intéressant parce qu'en fait on n'est plus du tout dans une communication assénée, institutionnelle, très institutionnelle, où c'est l'éditeur qui parle, bam, qui balance une affiche, une PLV, une pub dans un journal. Il faut offrir des choses. Ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que ces nouvelles technologies, c'est plutôt ça. C'est donner des choses et laisser les gens se les accaparer et les transmettre. Ce qui est peut-être là une vraie révolution pour des maisons vénérables comme les nôtres, quoi. Mais moi, je m'en sers pas. Enfin, si, je m'en sers pour communiquer. Mais à mon niveau, moi, j'ai soit des fans, soit des gens pas contents, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
J'avais des gens au milieu qui disent ouais, ça c'était pas.
Non, mais voilà. Enfin, l'idée, c'est de trouver des gens, de leur donner envie de lire des bouquins, des gens qu'on ne connaisse pas déjà. Donc voilà, ça c'est un métier, c'est pas le mien. Mais
moi, j'y crois pas vraiment en fait pour les bibliothèques. Attention, et ça n'engage que moi. Les bibliothèques essaient d'investir ces terrains-là. Je pense qu'on ne trouve pas vraiment notre public. Un bloc de bibliothécaires, clairement, à part les aficionados, les gens qui viennent en bibliothèque, en général, on fait quand même des bides, faut le dire. On va quand même le faire, parce que peut-être qu'on se trompe. Mais moi, je pense que voilà, la collection, il faut la laisser vivre sur place et que c'est là que ça se passe. On peut éventuellement sonder un peu le public, des petites choses très rapides sur Facebook. Voilà, on va acheter ce titre, oui, non, des choses, des co-constructions, mais très, très, très lapidaires, parce que je pense qu'ils sont... je parle toujours des bibliothèques. Je pense que cette volonté de toujours co-construire avec le public, elle est assez difficile à mettre en place. Donc on va essayer d'investir ces terrains-là, mais je ne suis pas du tout sûre que c'est par là qu'on aura des retours du public. Je pense que c'est ce qui se passe sur place qui compte. Après, dans l'idéal, mais ça c'est assez difficile à mettre en place, ce serait d'avoir un comité évidemment de lecture composé de lecteurs et de bibliothécaires. Ça ce serait l'idéal pour nous, mais ça suppose une fidélisation en amont qu'il faut déjà réussir à mettre en place. Donc on verra comment l'espace vit, mais à terme ce serait le mieux.
À la fois une fidélisation et puis aussi un turnover suffisant pour que le comité de lecture, justement,
bien sûr,
ne s'ancre pas trop dans l'espace et dans le temps.
C'est ça.
Parce que c'est important. Bon, Yann, parce que les blocs de libraires, quand même, il y en a eu quelques-uns.
Ouais,
parfois des fameux.
Bah, alors ça, c'est à titre personnel, moi j'ai du mal à y croire. Après, nous, justement, on a un bloc qu'on n'arrive pas à faire vivre parce que c'est d'une exigence folle de tenir un bloc. Quoi. En plus, si on veut mettre du dessin, tout ça. Donc un peu Facebook, effectivement, pour les actions qui ont lieu. Après, je crois vraiment aux réseaux sociaux physiques, quoi, parce que je crois que vraiment il y a des choses qu'on néglige un peu de ça. Alors évidemment, c'est plus situé dans l'espace, quoi. Mais généralement, quand même, il y a des fois des coups de feu comme ça physiques qui après sont repris alors du coup sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc le bouche à oreille, vrai, j'y crois aussi, quoi.
Et simplement pour rebondir aussi sur l'intervention que Gilles faisait tout à l'heure On voit bien aussi que pour les plus petits lecteurs, en fait, tout se resserre finalement autour de la collection personnelle, de la collection familiale ou de celle en fait des proches, ceux à qui on emprunte. Donc voilà, très probablement, le tirer sur on va dire, les sociabilités de proximité, c'est probablement le meilleur moyen d'arriver au moins à avoir les petits lecteurs. Et c'est probablement aussi un des enjeux. Mais en même temps, on sait bien aussi que ce sont ceux du coup, et là, ça concerne le libraire, qui achètent le moins, ou ça concerne le bibliothécaire, ce sont ceux qui vont le moins dans les institutions. Donc effectivement, il ne faudrait pas qu'il y ait une antinomie d'un côté entre le fait de se reposer sur le réseau de proximité, le bouche à oreille, alors même que si effectivement c'est là qu'on a les petits lecteurs, c'est pas pour ça que ça les fait acheter ou venir dans les espaces institutionnels. Donc la question, c'est qu'il faudrait trouver au moins quelque chose d'autre pour pouvoir les toucher. Sinon, effectivement, on va voir les passionnés d'un côté ou ceux qui aiment déjà la bande dessinée qui vont venir voir dans l'espace, en fait, s'ils peuvent trouver les numéros qui leur manquent pour compléter leur collection. En fait, c'est ça le problème. C'est que tous, on a un peu à faire face au même défi que globalement, ce qu'on a bien souligné, c'est que les gens lisent de moins en moins. Ils lisent aussi de moins en moins de la bande dessinée. Et globalement, on a affaire, effectivement, on l'a vu aussi dans les résultats de l'enquête, à des gens qui finalement arrêtent d'en lire avant 15 ans. Et que il va bien falloir qu'on trouve un moyen quand même pour les récupérer.
Alors, moi,
on met la clé sous la porte.
Je pense tout haut, parce que ce n'est pas des choses qu'on a mis en place concernant la BD, mais je crois davantage au partenariat à ce moment-là qu'aux réseaux sociaux pour capter un public qui ne vient pas. Alors, en l'occurrence, nous, on s'affranchit un peu de la dimension scolaire et pédagogique de notre espace, donc on ne travaille pas avec les écoles et les lycées, mais je pense que il y a avec le tissu social, socio-éducatif, il y a des choses à faire. Et c'est après à la BPI, on n'a pas les mêmes enjeux que les autres bibliothèques parce qu'on a on a énormément de monde. Et c'est intéressant de savoir que le public défavorisé, ou puisque c'est quand même un public qui fait partie du public qui compose le public de la BPI. Quand on a ouvert l'espace, le premier espace qui était très modeste avec uniquement des sélections Angoulême, donc quand même une BD assez pointue. Mais à partir du moment où on l'a sorti des rayonnages classiques du troisième étage pour le mettre dans un espace avec des assises et des postures de lecture qui se prêtaient à la BD, parce que ça c'est très important aussi, hein. Si on propose de la BD, il faut que ça suive derrière en termes d'assises. Ce public-là, il est quand même venu vers des collections pour lesquelles on aurait pu penser que... même si il était déjà dans les espaces, je suis d'accord, mais ce n'est pas forcément un public qui était acquis à notre cause. Et je reviens à la scénographie des collections, ça permet déjà en soi de faire de la promo sur un espace en le présentant par ce qu'il a d'intéressant de point de vue architectural, etc., et pas forcément par rapport au contenu. C'est une façon aussi de toucher un public qui est pas forcément, qui viendrait pas à la bibliothèque pour les BD, mais qui là se dit je peux lire tranquillement dans des fat boys, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Mais ça ramène alors la question des partenariats, effectivement, parce que on sait bien que c'est aussi une ouverture. Alors au moins dans l'espace public, arriver à travailler. Alors les éditeurs, par exemple, ont souvent des collections ou en tout cas des ouvrages, que souvent des adaptations de grands classiques qu'ils mettent à disposition, accompagnés de certains documents pédagogiques de l'éducation nationale, même si ce n'est pas toujours présenté comme ça. C'est une manière d'envisager un partenariat et forcément aussi de trouver probablement des débouchés d'une certaine manière, et peut-être même de permettre que se diffuse aussi l'intérêt pour la bande dessinée.
Oui, je pense qu'on essaye tous de faire ça, et je pense qu'on essaye tous sincèrement de faire feu de tout bois, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de compter sur l'éducation nationale, parce qu'il y a des gens qui y sont acquis, à côté il y en a qui sont pas, qui veulent pas en entendre parler, que c'est compliqué, on n'a pas le droit d'y entrer. Et c'est pareil pour les mass médias, on rentre pas, il suffit pas de dire je veux aller à la télévision pour qu'on parle de vous à la télévision. C'est quand même les télévisions qui choisissent. la plupart du temps, et ils préfèrent bizarrement parler des films de cinéma qu'ils vont passer 6 mois plus tard sur leurs antennes. Donc voilà, mais c'est toute la, ça, c'est tout le livre qui est concerné par ça, parce que je pense pas seulement la bande dessinée. On a des atouts par rapport à la littérature, la jeunesse par exemple, sans doute. On a des handicaps très certains. L'université par exemple, c'est une catastrophe, ça aide pas à crédibiliser, à légitimer la chose, ça aide pas à avoir un public plus connaisseur, qui pourrait s'intéresser aussi à l'histoire, etc., etc., donc à pérenniser plein de choses. Voilà, mais je pense qu'on essaye tous. Alors, des maisons sont plus fortes que d'autres dans certains domaines, d'autres plus faibles. On essaye tous de faire feu de tout bois, en fait. Des partenariats, faire des adaptations, oui. Nous, on fait très peu d'adaptations, voire pas du tout. D'autres en font beaucoup. C'est très bien. Non, mais enfin, voilà. Enfin, je sais pas, moi je crois qu'il y a des bons et des mauvais livres. S'il y a plus de bons livres, ça sera très bien et on y arrivera. Mais enfin non, mais il faut faire feu de tout bois en fait. Il y a pas, je vois pas une seule recette quoi. Je bon, réponds pas, hein, je suis désolé.
Non, mais c'est pas grave.
C'est particulièrement complexe.
Quoi. Mais non, mais je pense qu'effectivement on voit bien tous à la fois les enjeux puis la complexité qu'il y a à faire des choix stratégiques raisonnés. Ce que nous montre l'enquête sur le lectorat, c'est que finalement, ça nous permet de mieux dessiner probablement le public de la bande dessinée. En même temps. On voit bien que même comme ça, on a des zones d'ombre, parce qu'une enquête quantitative, on en parlait tout à l'heure avec Gilles, c'est essentiellement descriptif, c'est pas très explicatif. C'est-à-dire, ça nous dit qui lit, qui ne lit pas, qui lit quoi, mais ça nous dit pas pourquoi ces gens la lisent. Et donc du coup, ça ne nous dit pas comment aller les chercher, comment ouvrir finalement, et comment essayer de les ramener. Donc effectivement, on n'a pas de solution. L'idée d'avoir des regards de professionnels là-dessus aussi, c'est parce que ça rajoute un peu de vécu par rapport justement... aux chiffres, et puis d'essayer de nourrir ça un peu avec les contacts, les stratégies aussi que les professionnels peuvent mettre en œuvre. La question du partenariat, elle agit aussi à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas comment un libraire elle peut monter des partenariats. Par exemple,
le truc, c'est que moi, j'ai plusieurs casquettes. Mais du coup, à Martigues, on a connu justement un moment fort autour de... C'était un thème intitulé « Le vol de l'histoire ». Donc, en fait, comment on se réapproprie notre histoire. Et du coup, on a travaillé du coup, avec le cinéma, la médiathèque, la maison des jeunes de la culture et les deux librairies, la librairie spécialisée BD et la librairie généraliste. Et on a travaillé ça sur plus d'un an. Donc on a fait venir par exemple Pierre-André Sauvageau qui avait fait un documentaire sur Tardy. On a regardé du coup le documentaire sur Tardy. Mes ateliers ont participé à ça. On a fait un vrai partenariat. Alors par contre, voilà, ma casquette animateur se régale. La casquette libraire, c'est beaucoup de temps pour préparer ça et on ne l'a pas parce qu'il faut aussi bouger les cartons. Et donc du coup, on n'a pas le temps de faire ça. Mais vraiment, c'est riche par contre ça d'arriver à voir. Et là, du coup, en termes de public, y a des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à... Mais par le biais de l'histoire, sont venus à la BD, effectivement. Entre autres, par exemple, des profs d'histoire qui s'intéressaient que vaguement à la BD. Et à l'inverse, des jeunes qui d'un coup découvrent qu'il y a peut-être aussi d'autres choses dans la BD que Naruto. Mais voilà, mais ça a marché. Bon, il a fallu beaucoup d'énergie, il faut reconnaître, pour un partenariat. Mais j'y crois assez fort à ça, quoi. Au partage des genres, quoi.
Jean-Philippe me fait signe qu'on est presque à la fin.
Oui, je suis vraiment désolé.
Non, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais peut-être, si tu m'accordes juste un bref mot de conclusion.
Parce que, absolument.
Il y a quelque chose qui me semblait vraiment intéressant dans tout ce qu'on a dit à cette table ronde, c'est qu'à la fois, d'une certaine manière, Thomas, vous soulignez bien l'éducation nationale, difficile d'y rentrer, qui défend une vision finalement très, très légitime des choses. On voit bien que finalement, on a du mal à obtenir une certaine légitimité.
Oui, mais ça progresse quand même. Hein.
Ça progresse, certainement. Mais comme toujours, le processus de légitimation se construit au fil du temps. Il faut du temps, effectivement. Mais ce que je voulais souligner, c'est aussi que même nous, qui sommes des amateurs de bandes dessinées à différents titres, dans votre cas, qui en vivaient, partiellement au moins, mais qui avaient pour mission, en tout cas, de permettre à ce qu'elles vivent, vous êtes pris aussi dans ce jeu, parfois, de légitimation. On voit bien, finalement, il y a les grandes séries, mais on voudrait finalement sortir aussi ce qu'on veut, les bons livres, ceux qu'on juge comme étant bons.
Ah, mais il y a de très bons livres dans les grandes séries.
Je n'en doute pas un seul instant, j'ai pas de jugement là-dessus.
C'est une question d'équilibre.
Mais voilà, c'est la question de l'équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que même là, on est coincé, nous aussi, dans ces tensions de la légitimité, qu'on n'a pas forcément choisi. Hein, c'est pas le débat, je suis pas en train de porter une accusation. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré nous, on est coincé. Finalement, il faut équilibrer parce que, bon, d'accord, un peu de Naruto pour les faire venir, mais il y a du close à côté. Et là encore, c'est pas un procès. Hein. C'est toujours l'idée.
C'est pas que ça, là.
Ce dosage. Moi,
j'ai aucun souci avec ça. Non, enfin, je veux dire, Naruto, c'est génial. Enfin, il faut arrêter. Il n'y a aucun problème avec Naruto. Il n'y a aucun problème avec Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un phénomène mondial. C'est gigantesque.
La question, c'est pas de hiérarchiser.
Vous pouvez le prendre par tous les bouts. Moi, j'ai peut-être eu tout début un un souci avec ça, parce que c'est vrai que c'est pesant à bande dessinée, mais j'ai aucun souci avec ça.
Moi, je tiens juste à dire très rapidement, la question, c'est de témoigner de ce qui fait aujourd'hui la BD. Voilà, c'est
bien
ça.
Bien sûr, c'est la diversité, on est bien d'accord, c'est pour ça, ça recoupe bien l'expression que vous aviez, il faut faire feu de tout bois, ouais. Effectivement, c'est l'ensemble des choses. Ce que je voulais simplement évoquer, c'est que même nous, par rapport à nos institutions, aux actionnaires, j'imagine, ou aux clients, on se situe aussi, malgré tout, sur une échelle de légitimité. Mmh. Et on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut défendre des positions, les replacer. C'est d'ailleurs bien ce qui est gênant, parce qu'en fait, ce n'est pas notre choix à tous, mais en même temps, on est obligé de faire avec. C'est ça que je voulais souligner, c'est cette tension à laquelle on n'arrive pas bien à échapper finalement. Quand même, je trouvais que ça se retrouvait dans ce débat. Je ne doute pas, bien sûr, de vos bonnes intentions à tous. On en est convaincus. Mais voilà, mais malgré tout, ça reste quand même très présent. On n'arrive pas à y échapper. Voilà, sur ces bons mots, je vais laisser la parole à Jean-Philippe peut-être pour conclure. Non,
ça va être très très rapide, puisque comme vous le savez, il faut qu'on évacue la salle très rapidement. Donc, mais avant ça, d'abord, je remercie les participants à cette dernière table ronde.
Merci
à cette table ronde, je demande effectivement de les applaudir. De la même manière que je remercie tous les intervenants de cette journée qui se sont succédés derrière cette table. Cette journée, donc, il y aura des prolongations, comme il a été dit ce matin. Enfin, cette étude, la journée est une prolongation de l'étude, et il y en aura d'autres. Il a été question donc de la publication de l'ouvrage. Nous-mêmes à Angoulême, qui donc paraîtra au mois de février, je crois, le livre. Un petit peu plus tard. Enfin, de toute façon, on vous tiendra évidemment informés. De l'état d'avancement et de la sortie de ce livre. Il en sera avant ça quand même question, je le dis de manière très intéressée, pendant le prochain festival de la bande dessinée, pendant lequel nous organisons chaque année traditionnellement un stage destiné aux bibliothécaires, donc les bibliothécaires dans la salle, notez-le, qui doivent s'inscrire, il reste encore des places. Et donc au cours de cette session en janvier, on aura l'occasion, notamment c'est Benoît d'ailleurs. Pardon ? Ah oui, oui, oui. Mais là, en bonus, effectivement, le stage vous permet d'obtenir une entrée au festival. Pardon ? Oui. Le dessin de François Hérol et qui. Non ? Oui.
Non, juste une remarque sur le dessin, parce que moi, j'avais envie d'introduire les pratiques de lecture. Moi, j'ai l'impression que les jeunes lisent beaucoup, mais lisent différemment. Et là, ce qui me choque sur le dessin, c'est que chacun lit tout seul. Alors que les BD, ça se lit souvent à plusieurs, souvent sur un tout petit écran. D'ailleurs, ils sont les uns par-dessus les autres. Et curieusement, sur ce dessin, il n'y a pas beaucoup de jeunes, je trouve. Donc, ah bon, d'accord. Mais moi, je voyais plus... voilà. Et je pense que c'est important aussi de se dire que les pratiques de lecture, il y a la scénographie, mettre en scène les livres, mais il y a aussi permettre... Et voir qu'un livre, ça se lit maintenant aussi avec l'index pointé, souvent.
Merci, je ne sais pas trop quoi ajouter. Effectivement, c'est peut-être pas très net parce que l'image est un peu pixelisée, mais il y a bien des jeunes sur l'image. Oui, dernier point aussi, mais alors là, d'ordre très très pratique. Certains parmi vous m'ont demandé s'il y aurait des justificatifs de stage, de présence, pardon. Donc, je pense que quand vous avez saisi votre inscription, vous avez décoché, pour ceux qui sont évidemment concernés, la case qui le demandait. Demander voilà, de préciser si oui ou non vous aviez besoin des attestations. Donc on va s'occuper de ça avec la BPI dans le courant de cette semaine. Donc vous recevrez une attestation type. Si vous avez besoin d'attestations plus personnalisées, particulières, je ne sais pas, par type, j'entends, il y aura votre nom et on attestera que vous étiez présent aujourd'hui pour cette journée d'études. Voilà, donc je vous remercie à nouveau, et puis je pense qu'on se reverra prochainement. Et bon retour. Oui, absolument, c'est un feuilleton à suivre.